Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, en compagnie de Yann Kerjouin à la technique. On peut écouter les précédentes émissions sur les podcasts de Radio FM+. Jardin d'Isis reçoit aujourd'hui la poète Janine Gdalia. Bonjour Janine.
Bonjour.
Écrivaine, poète, journaliste, elle va nous parler de sa poésie et aussi de ses autres formes d'écriture, des essais, des nouvelles et des autres facettes de ses activités, de son engagement. Un travail dont le rapport au livre est le dénominateur commun. Alors on va donner quelques mots de biographie. Janine Gdalia est née en Tunisie où elle a vécu jusqu'à son adolescence. Elle en a conservé le goût des horizons, des maisons blanches et des paquebots qui ouvrent vers l'ailleurs. Elle n'oublie pas le sable chaud des dunes dans lequel il a fait bon se rouler, la magie des chottes et du désert commençant. Elle y a découvert la pluralité des hommes, des langages et des cultures dans une coexistence relativement harmonieuse et un enrichissement certain. J'aimerais d'abord, Janine, que vous nous disiez ce qui vous a mené vers l'écriture, vers ce goût, vers l'écriture et la littérature.
Je veux dire que assez vite, je suis devenue mauvaise en maths. Et donc, la littérature française, les langues étaient vraiment mon domaine préféré. Donc, en fait, quand j'ai fait mes études, bon, c'était évident que j'avais envie de travailler dans le journalisme, dans la presse. Et ce goût dans l'enfance m'a été donné pas tellement par ma famille, qui n'était pas intellectuelle, disons, mais par un milieu éducatif très riche, qui était celui des Francs-Franches camarades et de la Ligue de l'enseignement, des milieux plutôt communistes, mais très ouverts, très tolérants. Et j'avais rencontré là un jeune ami poète, Gazelle, qui est mort hélas pendant la guerre d'Algérie. Et donc, de voir un livre imprimé du nom d'un auteur qui est en face de vous, je crois que c'est quand même une expérience assez riche et incitative.
Oui, c'est ça, incitatif, une émulation. De votre biographie, donc, je retiens que vous avez grandi en Tunisie jusqu'en 1961. Ensuite, vous êtes venu à Paris pour poursuivre vos études. De cette enfance, vous avez gardé la force des images, des odeurs, des rencontres et ces paysages qui sont très présents et habitent votre poésie. On retrouve la mer, les couleurs. Je me souviens du livre que vous avez publié qui s'appelle « Désert » avec des illustrations de Jean-Louis Poveda.
Tout à fait. Oui, « Désert » était mon premier recueil. C'est vrai que pour moi, c'est le désert réel, concret. Mais c'est aussi un lieu très inspirant, quoi. Voilà, symboliquement. Est-ce que vous voulez que je vous dise quelques textes ?
Ah mais très volontiers, Janine.
Alors, nulle trace d'homme, nulle trace de vie. De temps à autre, un arbre desséché, un buisson, des cailloux, le monde prend naissance ici. Derrière la dune, j'ai cru voir ton visage. J'y vais, j'y vole. Derrière la dune, il y a ton sillage. Tu es encore plus loin. Mais dans cette étendue immense, je ne vois plus rien. Exil, nudité, absence de territoire, terre brûlée. Plus de retour possible, toujours ailleurs, plus loin, là où se croisent nos solitudes. J'ai besoin d'infini, du désert aux vagues multiples, désert bleu horizon, toujours porté plus loin. Vers quel abîme tu me conduis, de pas en pas? Seul. Le bruit remplit le monde, et de tourbillon en tourbillon, il vient doucement se perdre dans les nuages du sable. C'est au creux du désert que je vois le monde, dans une absence, présence infinie, mêlée au souffle de la vie, toujours renouvelée. Terre ocre, aride, ô lieu de la mémoire originaire, je vous hante sans fin.
D'autres publications, il y a Le Pont étroit, avec des illustrations de Félix Rosen aux éditions Encre et Lumière. Ces poèmes témoignent d'une quête solitaire du sens, mémoire de la lumière de l'enfance, reflet des paysages du désert où le bruit vient doucement se perdre dans les nuages de sable.
Sortir de soi-même, de cette étouffante camisole, briser le moule qui l'enserre, aller chercher quelques brisures du vase et réparer le monde. Pousser jusqu'à l'ultime, pousser loin, trop loin, là où jamais n'arrivera. Quête de sens inassouvi, impossible à combler, elle croise des frères d'infortune, errant dans les détours. Ne pas s'arrêter, courir, plus vite, jusqu'à épuisement, épuisement du souffle. Mais fuir quoi ? Ici, là, ailleurs encore, au plus lointain, monde interdit où je n'ai pas de lieu. Je suis allé au-delà de la raison. Je n'ai trouvé que magma, lettres en transe, en quête de nouvelles alliances pour donner sens à l'apparence de nos vies. Écoute l'Aleph, dans son silence et le verbe, la rumeur du monde. Prête l'oreille au commencement, avant d'entrevoir le terme. Dans le silence obscur de la grotte, l'éclatante lumière fut son quotidien. Scruter la pierre jusqu'aux interstices, y lire la brûlure, le cri des mots étouffés.
Alors on va écouter un extrait musical d'un compositeur qui s'appelle Michel Bismuth. Vous pouvez nous en dire deux mots, qui est un ami, contrebassiste et ami.
Absolument, c'était un grand ami, parce que malheureusement il est décédé déjà il y a 10 ans, très jeune. Et c'était quelqu'un que vraiment j'aimais beaucoup et qui a beaucoup de talent, je crois.
Et qui vous a accompagné pour une lecture,
oui,
vous le disiez, à Castries, médiathèque de Castries.
À la médiathèque de Castries,
autour des premiers textes que nous avons entendus, écoutés. Autour de désert.
Voilà, merci. Thank you.
Nous allons écouter maintenant une lecture du Chant des Sphères. Donc, si j'ai bien compris, c'est votre dernier recueil de poésie paru en 2017 aux éditions de La Margeride, avec de très belles illustrations de Robert Laubé à l'intérieur.
Merci, c'est tout à fait ça. Donc, mauvais temps. Mauvais temps. Tempête. Ciel noir. Page noire. Les faire naître. Advenir sur la page, se frayer un chemin dans les sables de l'ultime frontière. Lettres effacées, désormais illisibles, emportées dans l'ouragan du temps, variation des ondes portées, au-delà, monde infini, seul le point demeure et les morts. Dans le bruissement de l'univers, il partage la beauté des sphères, de l'espace sans contour, danse impalpable, vaste ronde, bruisse des ningunei, mélodie mélancolique d'un autre temps, d'un autre lieu, nous parviendront-elles ? Les mots leur sont interdits. Ils n'ont plus accès au vocable, ne peuvent désormais se servir du lexique. La musique des ondes est leur seule parole, intemporelle, libre et joyeuse. Ils descendent, montent, se déplacent au gré des portées, se rencontrent, se reconnaissent, attristés parfois, mais heureux de l'ordre retrouvé du monde. Ils n'attendent rien, instruits désormais. Ils ont atteint le tout, expérimenté l'ultime voyage, l'harmonie du noir absolu, repère unique, ni jour, ni nuit, ni réveil, ni adieu, ni mémoire, ni peur. Juste une trace, une incrustation infime dans les mots d'écume jadis prononcés. Dans ce vide, aux concours inatteignables, fantômes de leur propre existence, au-delà des souffrances, partir sans cesse, abandonner leur mort, réciter le Kaddish. Ils ont atteint leur terme. Aux planètes minérales, ils opposent leur transparence, présence fluide, empruntent tous les chemins de cette géographie hypothétique, traversent les espaces, sans porte ni clé. Nul n'est migrant dans cet univers de l'humanité première. Rancune dissoute dans le ressac du tout. Clameur tue dans les variations des ondes. Leurs vieux os ne leur font plus mal. Seuls les enfants assassinés, myriades d'étoiles incandescentes, scènent encore, à jamais. Il y eut, et ce fut la fin, je marche dans leurs pas.
Merci Janine Dalia. On va revenir sur cette vie à Tunis.
Oui.
J'avais envie de vous nous parler de cette vie à Tunis parce que vous disiez que l'enseignement qui vous a été prodigué, ainsi que la vie, cette vie dans une ville dans laquelle cohabitaient de nombreuses nationalités différentes pratiques religieuses, c'est ce qui a façonné cette ouverture d'esprit qui est la vôtre. Et pouvez-vous nous parler de cette vie à Tunis un petit peu, ce brassage culturel que vous avez, dans lequel vous avez grandi?
Bien sûr, c'était une... comment dirais-je, c'est ma ville natale, Tunis, et comme disait Mémy, une ville natale c'est comme la mer, et on n'oublie pas sa mère. Donc, à Tunis, on vivait, et plusieurs communautés, entre guillemets, j'emploie ce terme, parce qu'effectivement, on disait qu'il y avait la communauté juive, la communauté française, la communauté italienne, maltaise. Il y avait beaucoup de gens du bassin méditerranéen qui se trouvaient là en présence d'Arabes qui étaient là depuis aussi le 7e siècle, hein, vraisemblablement. Et tout ça fonctionnait plus ou moins bien, mais plutôt bien dans l'ensemble. Donc, on avait accès un peu au grand trait de la culture de chacun. Quand c'était le ramadan, bien sûr, tout le monde le savait. Quand c'était la Pâque juive, pareil, Noël, le jour de l'an. Donc, on fonctionnait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on apprenait, comme vous le savez sans doute, malheureusement, entre guillemets, on apprenait, il y a 2000 ans, et notre pays s'appelait la Gaule. Donc, évidemment, c'était une dissonance profonde. Et chacun, d'où il venait, était obligé de faire l'adéquation entre ce qui était ce qu'on nous enseignait à l'école, ce qu'on vivait, le pays dans lequel on était, qui était la Tunisie et pas la France. Mais tout ça était un mélange qui n'était pas agressif, bien sûr, jusqu'au moment de l'indépendance où ça s'est déroulé de manière plutôt facile, puisqu'il y avait eu des accords de Pierre Mendès-France, alors président du Conseil. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des attentats ici ou là, mais il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de choses traumatiques, en tout cas jusqu'en 1961. Parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont restés et qui, en 1967, sont partis très vite parce qu'il y a eu carrément un pogrom à l'égard des Juifs à ce moment-là, quand il y a eu la guerre des six jours en Israël, il y avait un rebondissement immédiat et qui a fait que beaucoup des boutiques juives ont été, violentées, ont été complètement saccagées, la synagogue, la grande synagogue même aussi. Donc, beaucoup de gens se sont dit, de juifs en tout cas, se sont dit notre place n'est plus là. Mm-hmm. Donc il y a eu une grande vague de départ à ce moment-là. Voilà, alors moi j'y suis retourné en Tunisie, j'y suis retourné à plusieurs reprises. J'étais resté quand même 11 ans sans y remettre les pieds. Et puis après j'y suis allé assez régulièrement pour des vacances, pour des rencontres, pour même un livre dont on parlera plus tard peut-être.
Oui. Donc, en fait, cette vie au sein de ce brassage culturel, avec la tolérance envers les autres pratiques culturelles, religieuses, plus ceci mêlé à votre culture, qui est la culture séfarade, on peut dire que ça va constituer les deux piliers de votre recherche et orienter votre vie professionnelle ultérieurement dans cette direction.
Bah oui, tout à fait, parce que à la fois... j'avais vécu cette richesse immense qui est de se trouver confronté à beaucoup de cultures. Et en même temps, en quittant la Tunisie, j'ai vécu un déracinement, dont vous avez entendu ici ou là quelques textes d'ailleurs. Mmh. Et ce déracinement m'a conduit à me pencher sur ce que j'étais et un peu plus sur ce que j'étais au niveau de ma culture juive, de mon identité, entre guillemets. Elle est multiple, mais cet aspect de culture séfarade était fondamental. Voilà. Donc, J'ai eu la possibilité, enfin après avoir fait des études de lettres à la Sorbonne, à Paris, j'ai eu la possibilité de collaborer à la presse, de collaborer aussi à la radio, au journalisme. Et voilà, donc j'ai après axé toute ma vie en fonction des hasards, bien sûr, mais en fonction des hasards un petit peu redessinés, un petit peu attrapés au vol, dans une organisation qui était toujours autour du livre, d'une certaine manière, vous l'avez dit, et autour de, donc de l'écriture, de l'édition et de la radio.
De la radio,
parce que, voilà, dans les années 80, on avait créé une radio à Paris, une radio libre, qui existe toujours.
Radio Judaïque FM, c'est
exactement, ça. Exactement, voilà, donc on n'est pas loin.
Hein. Oui, 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 mais c'est vrai.
Et voilà, donc j'ai eu cette chance, par différentes étapes, de pouvoir rester dans ce créneau.
Et vous avez effectué des traductions aussi, ce qui va de soi finalement, puisque entre l'écriture, le goût pour le livre, la culture...
Les autres, absolument, absolument.
Alors, c'est des traductions, les gens du Mella.
Alors, c'est les gens du Maroc.
Oui.
Le Mella était un quartier juif dans lequel vivaient les juifs marocains. Et au 18e, au 19e siècle, qui a duré jusqu'au XXe siècle, ce qui n'empêchait pas la bourgeoisie juive marocaine de s'installer, si je puis dire, en ville, comme on disait, dans la ville moderne. Et c'est un ouvrage de sociologie qui raconte comment, au travers des ketubot, c'est-à-dire des contrats de mariage, au travers des documents qu'il pouvait y avoir, la vie juive du Maroc ressortait. Et puis l'autre traduction, c'est une grande chance aussi, c'était de traduire un livre pour les enfants de Cervantes, Don Quichotte. Donc ce sont des textes de Cervantes, ils ne sont pas édulcorés. C'est juste un choix qui est fait, qui est forcément limité, parce que Don Quichotte, ça a 1200 pages, donc on est quand même loin du compte. Mais c'était une chance extraordinaire de pouvoir faire cette traduction. Et bon, j'ai adoré ça, d'autant oui. que Don Quichotte, c'est un livre auquel on revient très souvent. C'est oui. un livre source.
Et je lisais, cette nouvelle adaptation accentue la naïveté du personnage de Don Quichotte, dont la vision idéaliste du monde ne sait pas faire face à la réalité hostile.
Absolument.
Il y en a beaucoup des Don Quichotte. On va réécouter Michel Bismuth. Thank you. maintenant, Jeannine Dalia, j'aimerais vous parler de votre regard sur l'identité de la femme, et parce que vous vous penchez sur des destins de femmes dans plusieurs recueils. Donc ce recueil-ci qui a été publié en 2013, « Femmes et révolutions en Tunisie ». Alors vous réalisez des entretiens.
Ben, la question du statut des femmes m'a interpellée, si je puis dire, dès le départ, parce que c'est vrai que déjà les femmes en Afrique du Nord n'avaient pas toujours le même statut, dans le milieu juif non plus. Et d'ailleurs, avec une amie, Annie Goldman, nous avions publié en 1985, je crois, aux éditions Ballant, un livre qui s'appelait « Judaïsme au féminin », qui était une relecture, disons, de la Bible à travers un regard féminin, des femmes, des héroïnes de la Bible, et aussi des personnes qui avaient été très misogyne, parce qu'il y a effectivement un discours misogyne de certains rabbins. Donc c'était le premier livre qui s'intéressait au statut des femmes dans la Bible. Et là, quand il y a eu la révolution en Tunisie, ben je ne me sentais pas, je ne voulais pas rester en dehors de ce qui se passait. Et donc j'y suis allé à plusieurs reprises, et j'ai fait des entretiens avec quelques femmes qui me semblaient remarquables. Évidemment, ça ne contient pas toutes les femmes de Tunisie, mais il y avait des femmes diverses, à la fois des femmes nées en Tunisie, d'origine grecque par exemple, comme Marianne Katsaras, qui est photographe et poète, Nadia Elfani, qui est cinéaste, qui est née en Tunisie et qui vit en France, et dont le film, d'ailleurs, « La laïcité, Inch'Allah », avait été censuré, je veux dire, pendant longtemps en Tunisie. Et puis Khadija Chérif, Radia Nasraoui, qui sont vraiment des femmes tout à fait remarquables, qui m'ont beaucoup impressionnée. Eger Bourguiba, voilà. Donc, la Tunisie, qui a offert aux femmes un statut extrêmement ouvert, égalitaire, dès l'arrivée de Bourguiba, puisque avant même qu'il ne soit président de la République, il avait fait adopter des décrets, dès son retour de captivité, qui donnaient justement l'égalité à la femme, l'accès à la culture, à l'éducation, à le droit à leur corps, puisqu'à son corps, puisqu'elles avaient le droit d'avorter, elles avaient... Voilà. Alors je me disais, quel a été leur rôle pendant leur révolution, et j'ai interrogé donc plusieurs de ces femmes. Alors, Radia Nasraoui, qui est une femme remarquable, une avocate qui était vraiment, qui a défendu les droits de l'homme, docteur honoris causa, qui a été même proposée pour le prix Nobel de la paix en 2011. Et qui a aussi bien défendu les étudiants arrêtés sous le régime de Bourguiba que des travailleurs qui ont été tués sous le régime de Bourguiba, hélas. En 2003, elle avait participé à la création de l'association de lutte contre la torture en Tunisie, qui était pratiquée systématiquement par le régime de Ben Ali. Donc, elle a fait de la prison, son mari aussi. C'est vraiment une femme qui a été engagée. Donc, je crois que elle a failli obtenir le ministère de la Justice, mais dans les nouveaux gouvernements. Mais elle n'a pas accepté. Et comme elle disait, personne ne peut ignorer le rôle joué par les femmes tunisiennes depuis le combat contre la colonisation. La lutte pour le respect des droits humains, pour l'égalité homme-femme, pour la justice sociale n'a jamais cessé, ni sous Bourguiba, ni sous Ben Ali, ni à présent sous Ben Ennahda. Donc voilà, donc ça c'est par exemple le portrait d'une femme tout à fait remarquable. J'ai rencontré aussi Azafi Lali, qui est écrivaine, qui est venu à Montpellier d'ailleurs, invité par une association. Khadija Chérif, qui est une sociologue et qui a été aussi à la Ligue des droits de l'homme et qui a vraiment présidé cette association des femmes démocrates en Tunisie de 2006 à 2008, qui a aussi joué un rôle important pour la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Donc c'est une femme qui a toujours été engagée dans la société civile et qui a participé aussi à la Révolution, bien que, comme tant d'autres, elle n'avait pas vu venir la Révolution. Elle avait vu, bien sûr, la misère des gens, le mécontentement social, l'exclusion, mais elle met en cause, à juste titre, le système éducatif défaillant et qui avait enlevé, par exemple, la philosophie comme matière d'enseignement dans les années 90, un taux de réussite totalement démagogique, une misère. Donc tout ça, ça a été déjà mis en place et ça laissait penser que la révolution allait se faire, quoi. Mais voilà.
Donc en fait, c'est un recueil paru aux éditions Chèvrefeuille Étoilée.
Voilà.
Donc je suppose qu'on peut le trouver en allant sur le site de Chèvrefeuille Étoilée.
Absolument, mais je crois qu'il est épuisé aussi. Alors vous voyez, tous mes livres sont épuisés. Voilà.
Et donc ce sont des témoignages qui mettent en lumière l'implication incontournable des femmes de Tunisie.
Absolument.
Voilà, au moment de la Révolution et auparavant, bien sûr, et jusqu'en
suite.
2013.
Oui.
Alors vos centres d'intérêt, comme on vient de le voir, fussent dans des domaines très différents. Maintenant, nous allons nous rapprocher de la poésie. Comment diriez-vous que votre écriture en poésie s'est modifiée au fil du temps ? Est-ce que vous avez constaté une évolution ou une écriture qui vous êtes resté toujours sur... Ce sont des textes brefs que vous écrivez.
Oui. C'est plutôt des textes courts.
Oui.
J'ai même écrit des haïkus qui ne sont pas publiés. Mais en fait, il y a eu un tournant, si je puis dire, qui était par exemple dans Le Chant des Sphères, où c'est un texte, entre guillemets, beaucoup plus long, et qui a une autre thématique. Il ne s'agit pas, à proprement parler, de nostalgie ou de décor méditerranéen, mais c'est plutôt une réflexion, entre guillemets, métaphysique, à partir de notre situation d'humain dans ce monde si vaste et où gravitent des ondes en permanence, et dont nous sommes un tout petit maillon.
Est-ce que vous souhaitez lire un ou deux poèmes ou...
Oui, si vous voulez, voilà, parce que justement, parmi les textes, il y avait cette anthologie, Voix de l'extrême, Frontières, qui est parue l'année dernière. Et à la fois... Il y a une chose qui me semble fondamentale. C'est nul n'est étranger dans l'humanité originelle. Je pense que là, il y a quelque chose qui est comme un mantra pour moi. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut pas, on ne peut pas refuser l'accueil. Tout être humain a droit à une place dans ce monde. Voilà. Mon regard se perd sur la ville blanche qui s'éloigne de nous. Plus de maisons, plus d'ancrage. L'errance sera mon devenir. Je suis arbre déraciné, plusieurs fois replanté, jusqu'à retrouver une terre qui me ressemble, noyée de soleil et de lumière. Quitter en clandestin son pays natal, ne plus se retourner, avancer en silence dans l'obscurité ou dans la lumière, avancer en un unique sens vers l'espoir, la liberté.
Donc on entend au travers de ces textes cet engagement qui est le vôtre. Vous avez également publié des poèmes en anthologie, j'ai noté pour l'Ukraine, mais aussi en recueil collectif, Requiem pour Gaza en 2019, Jérusalem en 2021, des lieux qui résonnent tristement cette période de conflit paroxystique. Dites-nous en quoi cela est important pour vous en tant qu'auteur, cette facette de l'engagement, ça fait partie de... Oui, c'est une partie inhérente à l'écriture et à votre écriture en particulier, je pense.
Ben, je pense que mon enfance m'a préparé à me poser des questions. Mmh. Et à me poser des questions sur l'autre et sur la place de l'autre, quoi. Et à partir de là, ben, évidemment, je me suis engagée pas politiquement à proprement parler, mais si, politiquement dans une ligne, mais surtout vers une voie qui est de l'ouverture, de l'écoute de l'autre, de la découverte de l'autre, de la préoccupation, de l'engagement. Par exemple, parler de l'engagement, à un moment, il y avait des Juifs en Syrie qui étaient complètement bloqués, interdits de sortir. Donc là, on a milité... On a organisé plusieurs colloques auprès du Conseil européen, auprès de... Voilà. Il y a eu aussi un travail pour les Juifs du Yémen. Il y a eu un travail... Donc, quand il y avait des causes difficiles, quoi, qui... Alors, pour le Proche-Orient, évidemment, dès 67, je me suis inscrite dans le courant de la gauche pour la paix au Moyen-Orient. Qui a été vraiment qui a essayé d'être comment dirais-je active, qui évidemment avait moins le vent à poupe en ce moment, mais c'est ce qui m'avait amené à collaborer à ce recueil collectif Requiem pour Gaza, mais aussi à marquer mon identité à travers Jérusalem aussi, quoi.
Alors, du fait de votre vie sur ces deux rives de la Méditerranée, vous avez gardé cette dimension méditerranéenne et vous faites partie, vous êtes membre de l'équipe des animateurs poètes du festival Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée depuis 2007. Dites-nous quelques mots de vos interventions.
Alors écoutez, ce festival, bon, point n'est besoin d'en dire beaucoup parce qu'il est quand même très connu. C'est un... festival où j'ai un double rôle. À la fois, je suis comme poète invité, participe à des rencontres où je lis mes textes, et en même temps, j'anime comme animateur, j'anime des rencontres avec trois poètes ou deux poètes ou davantage. Et ce sont des poètes qui viennent de tous bords de la Méditerranée, et c'est extrêmement riche, extrêmement passionnant de découvrir chaque année des textes et des poètes différents et qui arrivent à trouver avec la poésie un terrain d'entente, un terrain de rencontre. Voilà, donc c'est un lieu d'engagement important aussi.
Alors, diriez-vous que la poésie est essentielle, Janine Dalia?
Je pense qu'elle est essentielle. Je pense qu'elle est essentielle, mais qu'elle a parfois du mal à trouver sa place quand on est dans des périodes tourmentées comme les nôtres. Eh bien, peut-être qu'on devrait se tourner plus vers la poésie qui permet de mettre une petite distance, oui, entre le monde et nous.
Oui, qui apporte un genre d'apaisement et aussi une connaissance de l'autre, puisque au travers des écrits, on connaît le ressenti, oui, de l'autre. Et, oui, et c'est vrai qu'on va à la rencontre de l'autre. En fait,
Et de l'autre qui est le même aussi, oui, c'est, oui, semblable, oui, parce, oui, que j'étais à Ramallah, un festival de poésie, et beaucoup de mes textes qui parlent d'exil... En fait, pour moi, c'était un exil qui s'inscrivait à partir de la Tunisie. Les Palestiniens de Jordanie, de Cisjordanie, de Ramallah, croyaient que ça parlait en leur nom. Et ils sont venus, ils étaient enthousiastes, si vous voulez, je leur ai dit, mais oui, parce que l'exil, quand on le vit, il a la même couleur, si je puis dire, partout, quoi.
Oui, c'est ce que j'ai lu, vous avez été accueilli en Palestine pour des, oui, lectures de vos poèmes, donc autour de la thématique de l'exil, ce que vous nous expliquez, et vous soulignez l'importance du dialogue entre soi et les autres.
Absolument.
Chers amis auditeurs, j'espère que vous avez beaucoup apprécié les interventions et les réponses de notre amie Janine Dalia, qui s'est livrée en poésie aussi sur son ressenti sur le monde et la poésie.
Merci beaucoup Marie-Agnès, merci à Radio FM et bonne écoute.
Voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir tout ce travail effectué autour du livre et des traductions et l'écriture en recueil de poésie, en essais, en nouvelles, ainsi que ses publications en anthologie au recueil collectif, toujours avec Jeannine Dalia. À bientôt, chers auditeurs.